journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Aujourd'hui, c'est la libre antenne du JDA. Venez vous exprimer sur les sujets de votre choix, c'est vous qui faites le sommaire. Nous devrions revenir sur la présidentielle au Cameroun. Nous parlerons également de la manifestation de l'opposition en Guinée et pourquoi pas, nous attendons vos réactions aussi sur la République démocratique du Congo où l'opposition manifeste depuis ce matin contre la machine à voter. Pour intervenir, nous faire part de vos avis et commentaires, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct, je vous propose de se diriger vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour amis JDA et bonjour Africa numéro 1. Moi, je suis le Philippe. Écoute, que quand j'entends la guerre contre la corruption en Afrique, moi, ça me fait rire. Les gens parlent. Mais sans rendre compte que la base de corruption, il faut l'attaquer. Attaquer comment? Il faut que le cordon qui est entre le riche et le poor, le niveau de vie en Afrique, et le SMIC dans des pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest où on a un salaire de 100 000 francs par mois, par exemple, et le ministre, il a jusqu'à 2-3 millions. Un pays comme le Bénin, qui a des ministres qui touchent presque 5 millions par mois, et son chauffeur, il est à 50 000 francs par mois. Comment voulez-vous que la corruption disparaît?
Bonjour Julia, bonjour les invités. Je voulais répondre, il y a un individu, je peux dire, quelqu'un qui n'est pas conscient dans la vie, qui ne sait pas qu'un jour lui, il va mourir. Il y a Marcel Gossio, père à son âme, qui est décédé. Je me dis, vous avez vu le comportement des pros, les pro-babou? Ceux-là, c'est des gens, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, ceux-là, ils foutent quoi sur la terre? Vous avez vu quelqu'un qui est décédé, que ses parents sont encore dans cette douleur, il y a l'individu qui est en train de dire que ouais, le monsieur va aller en enfer. Ouais. Vous avez vu ça? Sincèrement, des gens comme ça, ceux-là ne méritent pas le respect de la vie. Les pro-babos, ils sont comme ça. Quand tu n'es pas dans leur cas, le monsieur, il a fait quoi de grave? Sincèrement, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, c'est une honte pour les pro-babos. Merci, au revoir.
Amis auditeurs, bonjour. Mon appel au président de la République pour régler le cas de Guillaume Soro a peut-être été attendu. J'apprends que le chef de l'État a donné un ultimatum à Guillaume Soro pour que ce dernier puisse donner des éclaircissements sur sa position. Si cette information s'avère vraie, je crois que c'est une très bonne chose. Parce que nous ne voulons pas des politiciens essuie glace. Il faut extirper les brebis galeuses du RHDP avant 2020. Moi, je demande aux responsables du RHDP de ne pas dormir sur leurs lauriers. 2020 doit se préparer maintenant. Parce qu'en 2020, nous voulons un coup de chaos. Il n'y a rien en face. C'est papaye. Idriss, bonne journée et bon week-end à tous.
Oui, bonjour. Je voulais laisser un message comme quoi il y a eu les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire, la municipalité. Mais que le gouvernement, le gouvernement laisse les indépendants. Parce qu'apparemment, ils sont en train de stresser les indépendants. Et là, on n'est plus dans la démocratie. Nous ne sommes plus dans la démocratie. Hein? Le RDA pense que si la Côte d'Ivoire a été gérée comme ça, là, eux, ils allaient avoir la place même de venir au pouvoir. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, là, nous ne sommes pas dans la mafia. Qui le comprenne? Ils sont en train de stresser les indépendants. Pourquoi? On a dit indépendants, ils ne sont pas obligés de rentrer dans un parti. Arrêtez, si vous ne savez pas faire la politique, mais dégagez!
Allô, bonjour, Madame Steph, c'est Michi Keita. J'aimerais bien dire à Fatou Birama de venir lancé son programme de Où va Patou, Patou tu vas où. Ça nous manque énormément. Voilà, depuis mois d'août, on n'entend plus parler de Fatou Birama les soirs. Voilà, c'est ça que je voulais dire à Fatou Birama, de revenir le plus tôt possible. Voilà, merci et bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, une petite réponse à M. Keïta qui s'inquiète. Hein, il laisse de nombreux messages, M. Keïta, à l'encontre de Fatou. Pour l'instant, hein, le retour de la libre antenne, tu vas où Fatou, n'est pas au programme, je pense. Mais hein, vous pouvez retrouver Fatou et ses pensées tous les matins aux environs de 10h15 sur Ambiance Africa. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, c'est la libre antenne. Hein, vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 01 55 07 58 00. Nous commençons sans plus tarder cette libre antenne avec le Cameroun, les suites de l'élection présidentielle. Et nous en parlons avec le docteur Aimé Boni. Docteur Boni, bonjour. Ah, allô ? Docteur Boni ? Je vais vérifier juste un truc. Si l'insert est levé ? Non, l'insert n'est pas levé. Si, l'insert est levé, donc c'est pas c'est le docteur Boni qui répond pas. C'est dommage, hein, on voulait commencer avec lui. Tu vérifies quand même, d'accord, l'insert est bien levé. Docteur Boni, c'est pas l'insert 2 par hasard non plus. Ok, non, bon, bah ça marche.
Allô.
Ah, alléluia. Bonjour, docteur Boni.
Oui, bonjour, bonjour, madame Hartmann.
Merci hein, d'être avec nous, bienvenue dans le JDA. Vous vouliez, vous, hein, revenir, vous exprimer sur l'actualité camerounaise et les suites hein, de l'élection présidentielle. On rappelle hein, que selon les résultats donnés par le Conseil constitutionnel lundi dernier, hein, Paul Biya a été réélu avec environ 71,3% des suffrages.
Oui, en effet, moi je voulais faire un commentaire sur ce qui est considéré au Cameroun comme un hold-up électoral, hein, parce qu'il y a quand même suffisamment d'ingrédients pour jeter une forte suspicion d'irrégularité dans cette élection. Et donc, pour ça, moi, je vais vous dire que il serait quand même étonnant de considérer que le président Paul Biya ait gagné de manière magistrale dans des régions à forte tension. À forte tension parce que il est quand même considéré que dans ces régions-là, la population font de M. Paul Biya le responsable de leur malheur. Et donc, c'est quand même difficile de le penser. Il est impossible que le candidat Biya ait bénéficié majoritairement des suffrages au nord-ouest et au sud-ouest. Des suffrages, je le rappelle, largement au-dessus de la moyenne nationale, hein, qui est de 71%, alors que dans ces régions-là, il aurait eu un peu plus de 80%, ce qui est quand même assez étonnant. Comment une population qui a contraint le Premier ministre à s'exiler hors de la base territoriale, de sa base territoriale pour accomplir son devoir civique, a pu voter en faveur de Paul Biya? Il est impossible que le candidat Biya ait remporter la mise de manière écrasante dans la diaspora. Cette diaspora à qui il refuse la double nationalité, contrairement aux promesses des autres candidats. Il est notamment impossible que les Camerounais des États-Unis, majoritairement anglophones, aient préféré celui qui est tenu pour responsable de la crise anglophone. À l'instar de la sortie très médiatisée de Mgr Samuel Kleda, cet archevêque de Douala, qui est un homme de Dieu très respecté au Cameroun, les faits suivants contribuent à suffisance à avoir l'intime conviction que ces résultats à la soviétique, à contextualiser au regard de notre ère moderne où les écarts sont plutôt tenus, les faits suivants, disais-je, inquiètent par leur déconnexion de la réalité d'un pays à la gouvernance profondément désaxée et moribonde. Je cite, « J'ai été moi scrutateur non programmé dans un bureau de vote à Douala. La responsable du déploiement de mon bureau de vote, avec l'adoubement des autres représentants de ce qu'on pourrait appeler l'escroissance du pouvoir au Cameroun, c'est-à-dire Élections Cameroun et puis le ministère de l'administration territoriale. Cette dame donc a posé un acte qui est fortement suspect de tentative de tricherie. En effet, alors qu'elle avait sur sa table plusieurs stylos à billes, elle a préféré prendre un crayon délibile pour reporter le nombre d'empreintes digitales.
Vous voulez dire un crayon à papier, peut-être.
Pardon ?
Qu'est-ce que vous entendez par un crayon délibile, un crayon à papier ?
Un crayon papier, exactement. Voilà, un crayon papier.
Et vous reportez donc les scrutins sur le PV. Ça, c'est ce que vous avez vu, vous, dans le bureau, vous étiez scrutateur, c'est bien
non,
ça ?
Non, mais ce n'est pas encore le PV, mais c'est un document qui va servir à constituer le PV et c'est un document parce que de toute façon, quand vous allez voter au Cameroun, vous prenez, on vous identifie et donc vous mettez votre empreinte digitale sur un bordereau. Et donc cette empreinte digitale va être donc après colligée au nombre de bulletins de vote. Donc le nombre de bulletins de vote est décompté. Et le nombre d'empreintes digitales également.
Donc ce que vous dites, docteur Bonny, on va accélérer parce qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir ensuite, c'est que sociologiquement, d'une part, hein, ce que vous avez dit dans le Nord-Ouest, tout ça, ces résultats ne sont pas crédibles. Pour vous, la fraude est avérée. En conclusion, vous ne reconnaissez pas Paul Biya comme votre président ?
Moi, je ne suis pas candidat. C'est le candidat qui reconnaît ou ne reconnaît pas. À partir du moment où il est déclaré président de la République, je pense que les républicains, on le considère comme tel jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que les candidats de l'opposition qui ont estimé qu'ils vont avoir un recours républicain aient ce recours et que ce recours par les instances qui sont dédiées à ce genre de contentieux donne raison à quelqu'un d'autre que ce président, il sera le président. Mais le problème, c'est que de manière consciente ou inconsciente, soit on accepte les résultats d'une élection ou on ne l'accepte pas. Et si on ne l'accepte pas de manière consciente, il se pose le problème de la crédibilité de ce président. Il se pose quand même sa crédibilité. Et ça fait déjà 26 ans que ça dure. Je vous rappelle qu'en 92, on avait aussi estimé, et dans la conscience collective des Camerounais, le président de la République n'avait pas gagné l'élection de 92. 26 ans plus tard, on est dans la même situation avec le même acteur principal. Ça pose quand même un problème.
Ça pose problème. Vous nous dites, docteur Bonny. On a bien compris vos différentes réflexions sur cette élection présidentielle. On pourra en reparler, puisqu'elle rebat aussi, cette élection présidentielle, les cartes du jeu politique camerounais. Bonne journée à vous, docteur Bonny. Dans un instant, on va parler d'un autre pays, de la République démocratique du Congo, avec David Gaston. On ferme juste ce dossier Cameroun rapidement avec Joseph. Joseph, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, là, je voudrais répondre aux compatriotes là, qui viennent d'appeler. Moi, j'ai des amis qui sont en France, qui manifestent à l'ambassade, et ces gars, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Je crois que le devoir d'un citoyen, c'est d'être inscrit sur une liste électorale.
Joseph, vous pouvez couper votre radio ou votre haut-parleur, on entend un espèce d'écho, s'il vous plaît.
Oui, là vous m'entendez, hein?
Oh, l'écho est toujours là, mais allez-y.
Oui, parce que là je suis en appel normal. Et normalement, je crois que comme je suis au couloir, je veux sortir.
Allez-y, on vous entend bien, je vous en prie, Joseph.
Oui.
Vous dites qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales, surtout avant de contester, c'est ça.
Avant de contester, parce que moi j'ai plein de mes amis, moi je suis Camerounais, j'ai voté à l'ambassade, j'ai fait mon devoir, et là je peux critiquer. C'est pas le fait d'avoir des gens dans la foule, et qui veut dire qu'on a gagné des élections. Je ne suis ni pour le pouvoir en place, ni pour l'opposition. Je veux un changement au Cameroun. Et que les gens sachent que le RDPC est tellement implanté que l'opposition camerounaise n'est pas implantée. On les demande de faire une candidature unique. Moi, je suis toujours pour une candidature unique pour pouvoir gagner le pouvoir en place. Et l'opposition camerounaise qui est en France, ils ne font pas leur devoir électoral. Moi, maintenant, j'ai pris ma décision que tout Camerounais qui veut discuter avec moi pour le problème du Cameroun, qui est en France, je vais lui demander sa carte électorale. On aurait pu battre le candidat Biya en France.
On n'est pas loin des méthodes de l'Inquisition, Joseph, mais on a bien compris, c'est votre droit, bien sûr. Pour vous, il faut être inscrit sur les listes électorales pour contester le déroulement de l'élection au Cameroun. Merci, Joseph, de votre participation. Je demande à Douyi et à M. Camara, qui veulent parler de la Côte d'Ivoire, de patienter un petit peu. On va donner la priorité à ceux qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. Et on va prendre la direction de la RD Congo, retrouver David du côté de Beni. Bonjour David.
Bonjour Africa numéro 1.
Merci d'être avec nous David. Beni, malheureusement encore le théâtre de massacres. Il y a eu plusieurs morts encore cette semaine. Et par ailleurs, autre actualité au Congo, c'est les manifestations contre la machine à voter. Vous vouliez revenir sur Beni, vous,
par contre. Ouais. Oui, manifestation contre la machine à voter, mais ici à Beni, étant que originaire de la province Nord Kivu, aussi habitant de Beni, cela ne nous intéresse pas totalement, mais ce qui nous intéresse, c'est la paix. Car maintenant, tout ne va pas de soi ici chez nous. Il n'y a que des plaies partout et des massacres sur Beni, territoire comme en Beniville. Et cela nous pousse à nous demander, est-ce que nous avons un gouvernement ou soit la province du Nord Kivu a été cédée à un autre pays?
Ah, c'est la question que vous posez. À quel pays aurait été cédée la province du Nord Kivu? Malheureusement, David, la ligne a coupé, je pense. Merci.
Oui, nous ne savons pas.
Ah, David.
Parce que à l'heure où je vous parle, il y a une information qui circule dans la ville. Dit-on qu'il y a un soldat de la morphologie rwandaise qui a été tué quelque part ici en ville de Beni. Et cela, nous ne comprenons pas comment les étrangers vont chaque fois se retrouver dans notre ville et surtout une ville qui est tellement éloignée du pays comme le Rwanda. Mais si vous arrivez au Rwanda, vous ne pouvez pas rencontrer des Congolais ou soit des soldats congolais. Moi, j'appelle à notre gouvernement de nous prendre en charge et d'assurer notre sécurité parce que maintenant, ils sont en train de nous donner un esprit là que moi, je ne serais pas qualifié. Nous-mêmes, nous allons prendre l'autodéfense alors.
David Gaston, en direct de Beni. Merci David de nous avoir un peu parlé de la situation dans cette région, dans cette ville du Congo en proie à de nombreux massacres depuis de nombreuses années. Merci David, bonne journée à vous à Beni. On va dès maintenant aller à Conakry retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie et bonjour à l'ensemble des auditeurs et des auditrices d'Africa numéro 1.
Bonjour Tierno, merci d'être avec nous en Guinée. Il y a eu un mort la semaine dernière à l'occasion de la journée Ville Morte, Rebelote. Mardi dernier, un jeune homme a été tué par balle. Et mardi dernier, le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, s'est dit victime d'une tentative d'assassinat après que sa voiture ait essuyé des tirs.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment très désolant et inquiétant pour les citoyens guinéens, parce que les autorités n'arrivent pas à respecter les lois et les accords politiques dans notre pays. Les autorités continuent toujours à provoquer, à moindre marche pacifique ou des manifestations, les forces de l'ordre utilisent des balles réelles à l'endroit des citoyens non armés. C'est quelque chose qui est vraiment désolant. Au jour d'aujourd'hui, au rang de l'opposition, nous avons enregistré plus de 97 morts qui ont été tirés sauvagement par les forces de l'ordre. Ils sont tous enterrés ici, à Bambeto, dans la commune de Ratoma. Tout récemment, le mardi passé, le chef de file de l'opposition en personne a été victime, a échappé d'une tentative d'assassinat. C'est quelque chose qui est vraiment désolant parce que nos autorités n'ont pas tiré des leçons, n'ont pas pris des leçons dans les autres pays, là où les hauts représentants ont tombé, là où il y a des hommes de référence qui incarnaient une référence de certaines catégories, a été assassiné. Suite à ça, il y a eu des guerres entre ethniques ou guerres civiles. Mais c'est quelque chose qui est très dangereux. Ils ont tiré gaz lacrymogène, puis après, il y a quelqu'un qui a ouvert le feu direction de sa voiture. C'est quelque chose qui est vraiment très désolant parce que la Guinée, c'est un pays vraiment là où il y a plusieurs composantes, il y a plusieurs ethnies, chacun représente quelque chose, il y a plusieurs partis politiques. Donc, si on parle aujourd'hui de chef de file de l'opposition, c'est quelqu'un qui représente plus de 44% des électeurs guinéens. Il n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un à protéger. C'est quelqu'un qui est le chef de file de l'opposition. Il est le tête de l'institution. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'être protégé et sécurisé par le pouvoir. C'est hasard en tirant, ouvrir le feu direction de sa voiture, c'est quelque chose qui est risqué. Mais ici, dans notre pays, il faut que le monde entier comprenne que nous sommes dans un pays là où nous sommes pris en otage par un clan qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est un clan antidémocratique, un clan qui ne respecte pas les lois de la République. Les Guinéens avaient tous rêvé de voir les militaires qui étaient au pouvoir pour avoir un intellectuel. Nous avons eu un professeur de droit venu de la France, quelqu'un qui nous a tout dit lorsqu'elle était opposante.
Donc, Curriculum Vitae est encore à vérifier, mon cher Tierno.
Oui, tout à fait. Il
c'est
nous
pas
a
sûr.
Tous promis, mais voilà, aujourd'hui, les lois n'est pas respectée.
Vous êtes
il y a des jeunes
on
qui
bien
tombent
compris,
sous les balles des forces de l'ordre. Nous sommes vraiment dessus. Les politiques nous ont trahis.
Ça pose la question, surtout, Tierno, je vous interromps, je suis désolé, mais je pense qu'on a bien compris hein, ce que vous soulignez, la violence politique et le fait que le pays soit pris en otage. Ça souligne aussi la question de l'encadrement des manifestations. C'était des manifestations, hein, soit interdites. Je pense à ça parce que, par exemple, en RDC, hein, la police hein, de Kinshasa aujourd'hui a fait, comme c'est une journée de manifestation, elle s'est donné objectif d'encadrer de manière pacifique la marche des opposants. Objectif zéro mort. Il faudrait peut-être, voilà, aussi que la police guinéenne, les forces de l'ordre en Guinée, se posent la question de l'encadrement des manifestations. Bonne journée à Conakry, mon cher Tierno. Merci de votre participation. On va écouter Douyi et Monsieur Camara pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Douyi, bon... Ah, Monsieur Camara vient de couper, c'est dommage. Douyi, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de votre patience, Douyi. Hein. Je suis désolé, je prenais en priorité ceux qui s'étaient inscrits. Vous voulez revenir... Ça a été en Côte d'Ivoire, lancez-vous un appel au président Alassane Ouattara pour un dialogue national.
Oui, c'est donc les élections municipales et régionales étant finies, et il ne faudrait pas que M. Ouattara donne raison à l'Union européenne qui disait que son régime est trop faible pour accepter le jeu démocratique. Il faut donc que, dans cet accalmie-là, l'homme qui s'est toujours dit démocrate depuis qu'il était dans l'opposition, et qui cria à tue-tête qu'il était un démocrate de grande envergure, puisse aujourd'hui, sans tapage ni tambour, appeler l'opposition ivoirienne pour la refonte de la commission électorale et indépendante. Il ne faut pas attendre la veille de 2020 pour bricoler et attiser la haine, et la vengeance et la violence.
Il faut dès maintenant réformer la CEI, vous dites. D'ailleurs, c'était une promesse, hein, il s'est engagé.
Oui, c'est une promesse, mais bon, enfin, l'homme, sachant que l'homme ne respecte jamais les lois ivoiriennes, l'homme ne respecte jamais sa parole à lui-même donnée, comment est-ce que cet homme peut, demain, appeler l'opposition ivoirienne? Moi, je crains. C'est pour cela que j'ai lancé un appel. On n'a pas besoin de grandes manifestations aujourd'hui de rue, puisque l'homme avait dit officiellement que il allait changer, donc appeler l'opposition pour le changement de la commission électorale. Il ne faut pas donc que ce soit la population, même l'opposition, même le Front Populaire Ivoirien qui le demande, parce qu'on ne peut pas compter sur le PDCI. Le PDCI, c'est seulement comment renflouer la caisse du clan qui l'intéresse. Or, le Front Populaire Ivoirien, on va dire, pendant Sangaré, est ce parti qui
il y a beaucoup de les élections, hein, et je pense que c'est à peu près le seul parti aussi qui demande un dialogue, Douyi, hein, qui est en faveur d'un dialogue après la tenue des élections, et un dialogue aussi pour notamment réformer hein, cette CEI très controversée. Merci Douyi de votre participation. N'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur pour vous inscrire au 01 55 07 58 05. Ça vous évitera de patienter. On va écouter Monsieur Camara. Monsieur Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Camara, vous vouliez y revenir, vous, ces indépendants hein, qui ont rejoint des listes RHDP. Certains, il semblerait, auraient été victimes de pression du gouvernement. Qu'en pensez-vous? C'est une auditrice hein, tout à l'heure parlait de coups de canif dans la démocratie. Est-ce que c'est normal quand on vote pour un indépendant qu'il rejoigne après un parti politique?
Non, mais moi je pense que faut pas qu'on se foute de nous. Un indépendant, c'est un centriste, il est libre de faire ce qu'il veut, mais faut pas qu'il y ait des menaces. Il faut qu'il vienne de lui-même, parce que apparemment, en Côte d'Ivoire, quand vous êtes politicien, quand vous voulez devenir politicien, vous êtes menacé systématiquement. Quand vous n'êtes pas dans le camp gouvernant, et c'est désolant quoi. C'est-à-dire qu'on a pris l'exemple de Abavoua, de
on a fait du chantage apparemment. On disait que s'il refusait de rejoindre la liste RHDP, il n'aurait pas de budget conséquent pour travailler au développement de la commune.
Pas de budget pour travailler dans sa commune et encore le budget, même si vous êtes élu, que vous n'êtes pas de l'autre côté, pour avoir les budgets c'est déjà compliqué. Mais on vous menace déjà si vous venez pas envers nous, si vous venez pas nous rejoindre. Vous n'aurez rien. Vous croyez que c'est normal ça? Moi je pense que c'est la Côte d'Ivoire est malade. On est malade politiquement. C'est pas des politiciens qui sont au pouvoir, c'est des assassins, c'est des gens qui veulent.
Après, c'est un phénomène qu'on rencontre depuis 2001, hein, le fait que des indépendants soient élus et rejoignent ensuite un parti, c'est quelque chose qui était déjà connu avant, Monsieur Camara.
Non, ils sont pas menacés, ils viennent d'eux-mêmes. Faut pas qu'on les menace, faut pas qu'il y ait du chantage. Chacun est libre d'aller où il veut, mais il faut qu'il vienne de lui-même, faut pas qu'on le menace. Et moi, je trouve que c'est pas normal, quoi. Même quand on critique le président, on est menacé. La Côte d'Ivoire est malade. Ces gens-là, si ça n'a pas fait la politique, ils rendent le tablier. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, moi je vous dis sincèrement, depuis longtemps on parle de ça, mais la Côte d'Ivoire c'est une vraie bombe à retardement. Si les gens ne prennent plus le temps, ou le je sais pas, de réconcilier les Ivoiriens honnêtement, et qu'on se dit la vérité, et on laisse la haine derrière nous.
C'est des mauvais signaux hein, pour vous, hein, monsieur Camara, on entend. Hein.
Pardon ?
Ce genre de pratique envoie de mauvais signaux.
Ah bah bien sûr. S'ils ne le font pas maintenant, là, les années à venir, ce n'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on enterre l'âge des guerres. Ce n'est pas en menaçant les gens par-ci, par-là, pour mettre une solution. M. Ouattara, il a mis... Même des enfants qui n'ont rien à voir dans la politique, qui ont manifesté tout simplement, sont toujours en prison, en train de mourir. Et personne ne dit rien. La communauté africaine ne dit absolument rien parce qu'Alassane est au pouvoir. Moi, je trouve ça déplorable. Et ça, c'est un avertissement. On l'a toujours dit, même dans les chiffres de la Côte d'Ivoire par rapport au PIB, il ment en plus. Mais c'est grave pour un intellectuel comme M. Ouattara Alassane, c'est grave. Il est incapable de dialoguer avec les autres, c'est pas possible.
Moi, merci Monsieur Camara de votre contribution, hein, Monsieur Camara qui faisait part de son étonnement et tout coup son inquiétude peut-être sur le déroulement hein, de la vie politique en Côte d'Ivoire et ses pressions hein, qu'auraient reçues certains candidats indépendants pour rejoindre le RHDP. On retourne au Cameroun, retrouver Monsieur Fofana. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Ackman.
Bonjour Monsieur Fofana. Vous vouliez revenir sur le fait que Paul Biya ne pouvait pas gagner.
Oui, je voulais revenir sur le point pour dire Paul Biya ne pouvait pas gagner. Nous tous on le sait. Mais combien de Camerounais qui sont allés voter? Ça parle dans les salons, ça parle dans les petits maquis, mais combien qui sont allés voter? Ça, c'est d'abord un. Nous tous, on sait que Paul Biya ne pouvait pas gagner. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, hein, il s'est autoproclamé, comme je peux le dire, pour dire il a gagné, il est là. OK, il n'y a pas de souci. On va laisser là, on va aller dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Ce que le frère Camara vient de dire, c'est très, très important. C'est un bombe à retardement. Parce que si quelqu'un allait voter un indépendant, c'est qu'il en a marre de PDCI ou il en a marre de RDR. Donc s'il va voter un indépendant, qu'on laisse l'indépendant faire ses preuves. On ne va pas aller le menacer. Allô?
Oui, on vous écoute, hein, Monsieur Fofana.
Voilà, on ne va pas aller le menacer pour qu'il vienne forcément rejoindre le RHDP. Ce n'est pas normal.
Après, je redis encore une fois, hein, les indépendants ont fait le chemin d'eux-mêmes aussi. Hein.
Je suis d'accord, voilà. Madame, mais je vous dis, c'est sûr et certain qu'ils ont eu des menaces. Parce que d'abord, quand tu es indépendant, comme Camara, il a dit, pour gagner des budgets, d'abord, pour ta commune, c'est déjà un problème.
Est-ce que ce n'est pas des stratagèmes, des fois, de se dire, on se présente en indépendant, et finalement, ça permet un peu de dissoudre les voix, et après, on rallie un parti.
On est d'accord. On est aussi d'accord, mais...
Je donne seulement des suppositions, Monsieur Fofana.
On n'avait jamais entendu qu'un pouvoir en place a menacé des indépendants pour venir. Il y a des indépendants qui votent eux-mêmes, qui vont comme ça, après qu'ils rejoignent les partis de la présidence. On est d'accord. On est d'accord. La dernière fois, j'avais voulu intervenir pour dire combien de personnes qui n'ont pas eu le sticker, par exemple, chez nous, à Bassa, pour pouvoir voter. Ça, c'est d'abord ça. Combien de personnes, j'avais voulu intervenir, mais je n'ai pas eu le temps. On peut pas.
Locales, côté plutôt effectivement tachées d'irrégularité. Hein, de nombreux candidats, hein, d'ailleurs, nous ont contactés pour nous faire part de leurs inquiétudes sur ces élections. Merci, Monsieur Fofana. On aura peut-être l'occasion hein, de revenir sur les locales, puisque des recours ont été déposés. Il faudra bien que ces recours soient examinés. Merci, Monsieur Fofana. On va conclure cette émission avec AZ. AZ, bonjour. Oh là là, oui. AZ, c'est bizarre, je monte.
Oui.
Vous pouvez couper votre radio, bonjour. AZ, s'il vous plaît.
Oui. Bonjour, Madame Stéphanie, comment allez-vous?
Bah, je vais bien, dépêchez-vous. Vous avez une minute, AZ. Oui. Vous voulez revenir sur le Cameroun?
Non, c'est juste pour conclure. Je veux parler de l'Afrique en globalité. C'est-à-dire quoi? Les Maliens se plaignaient de la mauvaise gestion du pays Païbéka. Ils font des élections au lieu qu'ils désignent un seul candidat. C'est-à-dire former une coalition pour désigner un seul candidat pour pouvoir le battre. Ils ne l'ont pas fait. Il y avait plein de candidats. Et malheureusement, il a encore gagné. Et là, par rapport au Cameroun, je suis désolé, Mais les Camerounais, attendez, je ne comprends pas. Ils ont imaginé que Paul Biya allait perdre les élections. Non.
Pour vous, sans union de l'opposition, il n'y a pas de possibilité de battre des candidats qui sont au pouvoir, c'est bien ça.
Voilà, il faut une bonne.
Ce sera le mot de la fin.
Désigner un candidat pour pouvoir battre. Attendez, vous, les gens qui prétendent diriger un pays, ils n'ont pas de stratégie. Il faut de la stratégie.
De la stratégie, nous dit AZ. On finira sur ce mot, AZ. Merci d'avoir conclu cette émission. On n'a pas le temps de prendre les autres auditeurs. La Sana voulait nous dénoncer ce qui se passe actuellement au Mali. Je pense qu'une manifestation est prévue samedi 27 octobre à Paris sur le Mali. Idriss voulait rectifier ce que venait de dire des autres auditeurs précédents sur les opposants. J'invite Idriss à laisser un message sur le répondeur. Et Samafi nous disait, quelles que soient les élections, il y a toujours des fraudes partout. Voilà, c'était la libre antenne du journal des auditeurs. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter @jauditeurs. Venez nous faire des suggestions de sujets, nous faire part de vos coups de cœur, coups de gueule. L'antenne est à vous. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres à l'écoute d'Africa numéro 1. Bon week-end.